C'est jeudi, j'ai psy. Bonjour Armelle.
Bonjour Sylvie.
Alors Armelle, très heureuse de te retrouver après pour moi en tous les cas une semaine de congé de respiration. On pourrait presque plus appeler ça respiration que congé, oh, étant oui. Donné la situation actuelle. On aborde pour repartir une thématique très importante et qui est vraiment au cœur du coup de nos rendez-vous, puisque toi tu es psychanalyste, et c'est dépoussiérer la psychanalyse, une urgence, point d'interrogation. Ça c'est la proposition que tu m'as fait. Je trouvais que c'était drôlement intéressant aussi de nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que la psychanalyse, d'où ça vient, etc., parce qu'on dit un peu tout et n'importe quoi sur le sujet.
Voilà.
Donc, avant de dépoussiérer la psychanalyse, voyons un peu d'où ça vient. Alors, il y a des grandes figures tutélaires, comme dans chaque pratique, et l'origine de la psychanalyse, on peut quand même parler du point de départ qui est Freud.
Oui, exactement. Bah, le fondateur de la psychanalyse, c'est Freud. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Freud est né en 1856, donc on est au milieu du 19e siècle. Alors, c'est sûr que quand maintenant on nous parle de freudien, de freudisme au 21e siècle, pour moi, c'est un non-sens déjà. Mais si on remet les choses dans leur contexte, bah, Freud était effectivement neurologue. Hein. C'est un neurologue autrichien, donc c'était un scientifique et un médecin. Là aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il ne s'agit pas d'un illuminé qui un jour a réfléchi à la structure psychique. Il est quand même neurologue. Et il va avoir cette grande idée de repenser les processus psychiques en essayant de théoriser ce qu'il a appelé, lui, l'inconscient. Et puis, il a identifié des instances psychiques, le moi, le surmoi, le ça. Et c'est extrêmement innovant parce qu'on ne l'avait pas fait, on n'avait pas théorisé ce qui se passait dans la tête, on n'avait pas essayé de mettre des concepts dessus. Et mettre des concepts pour Freud, c'était une façon de pouvoir aider, guérir, soigner, accompagner des gens qui étaient en souffrance. Donc, toutes ces recherches étaient destinées à aider des gens qui étaient en souffrance. Ça, c'est important aussi de le dire. C'était pas de la course à la gloire. Sa volonté à lui, c'était vraiment d'essayer de guérir des patients et de les guérir autrement, de trouver d'autres solutions. Et surtout, de les écouter, chose qu'on ne faisait pas avant. Il s'est mis à écouter les patients. Donc, en ça, c'est extrêmement innovant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ces structures psychiques qu'il a mises à jour avec ces théories, eh bien, elles ont été validées, alors avec d'autres termes et d'autres sciences, mais elles ont été validées plus d'un siècle plus tard, quand on avait commencé à étudier le cerveau à la lumière des neurosciences. Hein. Et puis, qu'on a aussi procédé à des IRM, notamment sur des victimes de trauma, pour voir ce qui se passait dans le cerveau, quelles étaient les zones qui étaient impactées, qui étaient activées ou alors réactivées. Et donc, ce que lui avait théorisé du haut de son savoir au milieu du 19e siècle ou à la fin du 19e siècle, ça prend tout son sens quand on travaille après en neurosciences au 21e siècle.
Alors, c'est bien effectivement de le remettre dans son contexte et de rendre à César ce qui lui appartient, mais de se dire aussi, il faut, comme on dit, alors on va rester dans le truc, c'est qu'il faut tuer le père pour avancer. Et donc, il ne s'agit plus effectivement aujourd'hui, même si on reconnaît la place de Freud, comme tu le disais au départ, il ne s'agit pas forcément de se dire freudien ou pas. Étant donné qu'on est au 21e siècle et que les choses ont heureusement avancé, qu'on a d'autres outils. Alors, après Freud, vient Lacan.
Oui, alors là, c'est vraiment pour faire court, parce qu'il y a Ferenczi, il y a Jung, enfin, il y en a plein, mais là, on ne pouvait pas faire un cours magistral sur la psychanalyse, et puis ça ennuierait les gens, et ils auraient bien raison. C'est vrai que... En général, les gens te demandent, quand tu es psychanalyste, mais tu es freudien ou tu es lacanien?
Voilà, oui.
Alors, pour être tout à fait trivial, la différence entre les deux, un freudien, il garde le patient une heure, un lacanien, il le garde 20 minutes. Voilà. Pour le même prix. Bon, on peut dire que c'est une technique différente, mais personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise dans mes baskets quand je fais payer une séance d'une heure à quelqu'un. Je me sentirais très mal si je devais payer 20 minutes. Tu me diras, il y a des psychiatres qui font des expertises psychiatriques en 7 minutes. Donc, pour le même prix, voire plus. Bon, Donc Lacan, lui aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est psychiatre. Donc c'est aussi un médecin, c'est aussi un scientifique. Il est psychiatre et lui, il s'inscrit dans l'époque du structuralisme et notamment du développement de la linguistique, hein, sociaux, tout ça. Donc la linguistique, c'est l'étude du langage. Et il va inscrire sa pratique clinique, tout en étant psychiatre, donc médecin scientifique, dans la recherche de ce qui peut, dans le langage, aider la personne à exprimer ses souffrances psychologiques et à aller mieux. Donc on utilise enfin le langage pour aider les gens à aller mieux. C'est quand même très innovant aussi. Alors Lacan, pareil, hein, 1901-1981, donc on est décalé d'une quarantaine d'années de Freud, mais enfin on reste quand même dans une époque qui maintenant est ancienne.
Alors on peut quand même aussi rajouter avec Lacan qu'il remet en question de façon très 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 moderne finalement aussi la question du genre et le patriarcat.
Oui, mais comme on peut dire de Freud qu'il a été le premier à écouter les femmes. Donc finalement, on a quand même, à travers le développement de la psychanalyse, même si après il y a eu des dérives, on en parlera sans doute plus tard ou un autre jour, mais en tout cas, on a quand même affaire à des gens qui écoutent l'autre et qui n'hésitent pas à bousculer un peu les acquis, que ce soit Freud ou Lacan. On est encore dans des époques où les femmes ont très peu de droits, sont très peu écoutées, sont très peu entendues, et que ce soit écouter la parole des femmes ou remettre en question les bases du patriarcat, bah, on a quand même de grandes avancées là qui se passent, au niveau en tout cas de la prise en charge psychologique.
Mmh. Alors, femmes, justement, ben on y vient parce qu'on parle beaucoup, d'hommes en matière de psychanalyse, mais il faut remettre les choses là aussi à leur place. N'oublions pas qu'on est le départ, on est au 19e siècle et qu'au 19e siècle, les femmes, on ne les voit pas, et même au début du 20e, on les voit très peu, notamment dans tout ce qui est scientifique. Alors, on a quand même Dolto qui arrive.
Ben oui, bien sûr. Alors Françoise Dolto, elle est incontournable et c'est pareil, maintenant on lui fait dire des choses absolument abominables, mais ça a quand même été une révolutionnaire. Donc elle est pédiatre, encore une fois, médecin, donc plutôt scientifique. Elle est pédiatre et psychanalyse. Et elle, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va aller encore au-delà. On parle de Freud et Lacan qui finalement écoutent un peu les femmes et remettent en question les bases du patriarcat. Ben Dolto, elle va centrer sa pratique sur les enfants. Donc elle va se mettre à écouter les enfants et à prendre en compte la souffrance psychologique et pas que la souffrance physique des enfants. Et ça, c'est totalement révolutionnaire. Il y avait eu Mélanie Klein avant elle, mais comme je l'ai dit, on ne pouvait pas parler de tout le monde et on ne pouvait pas faire l'impasse sur Dolto, puisque tout le monde a entendu au moins une fois son nom. Et elle a donné son nom à certaines écoles. On en a parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en chronique. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que Dolto considère que l'enfant est un sujet à part entière, que l'enfant est doué de raison, il est doué de langage. Alors le langage, ce n'est pas forcément que le verbal. Moi, je le vois quand j'ai des petits patients de maternelle, par exemple, qui viennent. On ne peut pas faire une séance en face à face avec le petit 3-4 ans qui s'assied dans le fauteuil et qui te raconte sa vie. Bon, ma Dolto, elle avait bien compris ça, mais par contre, elle utilise tout ce qui fait langage. Hein. Ça va être la gestuelle, ça va être les intonations, ça va être le tout ce qui est non-verbal, finalement, autant que le verbal. Et elle fait parler les enfants, elle écoute les enfants et elle aide les enfants à aller mieux grâce à ça.
Alors, tu disais qu'elle était, on entend là aussi, on entend tout et n'importe quoi. Elle est beaucoup remise en question en ce moment. Il faut là aussi remettons les choses dans leur contexte. On l'accuse d'être notamment pour l'inceste. Enfin.
Oui, bah oui, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont sorties au moment de l'affaire Matneff l'année dernière, et c'est vrai qu'elle a dit des conneries, elle a fait des conneries, mais enfin, c'est quand même dommage de réduire tout ce que Dolto a pu faire pour les enfants à ça. Cela dit, encore une fois, voilà, on remet les choses dans leur époque, c'était une autre époque, on cautionne évidemment ni toi ni moi ce qui a pu être dit là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de phrases qui sont sorties de leur contexte. Voilà. Bon, on ne cherche pas à l'excuser, elle a dit des conneries, mais il y a des phrases qui sont sorties de leur contexte.
Tout à fait, mais on a aussi le droit à la connerie, ça serait pas mal d'arriver à revendiquer le droit à la connerie parfois. Certes. Je ne dis pas, on est d'accord qu'avec des guillemets, tout ça. Alors, un autre psychiatre aussi et psychanalyste, donc scientifique, c'est intéressant de redire à chaque fois, effectivement, que tous ces gens-là ont, au départ, une formation scientifique. Ce ne sont pas de doux illuminés ou de douces illuminées. Racamier.
Oui, Racamier, c'est quelqu'un qui est intéressant. D'abord, il a une très belle plume. Ses ouvrages sont très agréables à lire et très, très bien écrits. Et puis, surtout, il a abordé des choses qui n'avaient pas encore été vraiment abordées. D'abord, effectivement, il a mis les pieds dans le plat sur le thème de l'inceste. Et lui a parlé, il a distingué l'incestuel et l'incestueux. Et l'incestuel, c'est très intéressant parce que c'est finalement une espèce de climat. Il n'y a pas forcément de passage à l'acte, mais on se rend compte en réalité qu'il y a un climat qui est propice à ça et qui repose sur tout un faisceau d'indices. Et il l'a très très bien exprimé dans son ouvrage sur l'incestuel et l'incestueux. Moi, je trouve que c'est vraiment un livre majeur qui éclaire beaucoup de choses, y compris sur la prise en charge, qui apporte beaucoup de choses sur la prise en charge des patients, sur l'approche clinique. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a posé le concept de pervers narcissique. Hein, et on sait quand même depuis que ça a eu plutôt de beaux jours, le concept de pervers narcissique. Lui, il l'a posé quand même à la fin du XXe siècle. Donc, on voit que c'est quelque chose qui a été fondamental après pour la prise en charge, malheureusement, des victimes des pervers narcissiques. Donc, c'est une œuvre essentielle. C'est quelqu'un qui est moins bien connu, enfin, qu'on connaît quand on fait ces études-là, mais qu'on ne connaît pas forcément dans le grand public.
Alors, c'était intéressant de remettre un peu tout ça dans le contexte, parce que pourquoi on parle de psychanalyse, et au départ, on a dit effectivement dépoussiérer la psychanalyse, serait-ce une urgence? Oui, c'est, je pense qu'on peut le dire. Et notamment, on a beaucoup parlé de femmes et d'enfants, parce que c'était des paroles qui n'étaient jamais entendues. Voilà, qui était voire même balayé. On a commencé à les écouter, à les entendre, peut-être en tous les cas au moins les écouter déjà. Qu'est-ce qui pour toi est le plus fondamental par rapport à cette évolution, justement, de l'écoute de la parole de la femme et de l'enfant?
Je crois déjà que tout simplement, on a considéré que la femme et l'enfant étaient des sujets à part entière. Voilà. Et ça, c'était en soi déjà extrêmement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait qu'une seule autorité, donc une seule opinion, donc une seule forme de pensée qui avait de l'importance et de la valeur dans ce qu'on supposait être la cellule familiale, et c'était quand même le père, c'était l'homme, le chef de famille, celui qui décidait de tout pour tout le monde. Donc la femme et l'enfant ont été restaurés, ou juste même carrément instauré comme étant des sujets à part entière, et ça on le doit entre autres à la psychanalyse, mais beaucoup à la psychanalyse. Le problème finalement, si tu veux, c'est la manière dont on utilise maintenant des concepts qui sont anciens. Et ça, c'est quand même quelque chose qui obsède certains détracteurs de la psychanalyse, parce que ça ne pose pas problème de se dire que les philosophes de l'Antiquité étaient misogynes, ou qu'ils encourageaient par exemple des pratiques sexuelles sur des jeunes garçons. Ça ne dérange personne, on ne dit pas maintenant qu'il ne faut plus philosopher. Bon, on ne remet pas en question le fait que les pratiques chirurgicales, il y a des siècles, faisaient beaucoup de morts, qu'on césarisait les femmes n'importe comment. On n'a pas dit qu'il fallait arrêter de faire des césariennes. Par contre, on a l'impression que tout ce qui a été dit en psychanalyse il y a plus d'un siècle, ça détermine le fait qu'il faut refuser la pratique de cette discipline et même qu'il faut la diaboliser. C'est ça qui est complètement incroyable, une espèce de procès comme ça en intention. Alors oui, il y a des concepts qui sont totalement obsolètes, voire délétères, voire dangereux. On sait par exemple que quand on utilise certains concepts psychanalytiques anciens dans le cadre d'expertise judiciaire, il y en a qui font ça et qui font malheureusement et qui font beaucoup de dégâts, on aboutit à soutenir des théories type aliénation parentale, etc. On minimise les cas d'inceste. Ça, c'est très grave et c'est très dangereux. Et ça, il faut l'interdire. Mais il faut comprendre que les théories qui ont fait la base de la psychanalyse doivent évoluer, doivent être reformulées, doivent être modernisées. Et puis que surtout, la psychanalyse, c'est pas arrêtée à la fin du XXe siècle, ou même à la moitié du XXe siècle. Il y a des psychanalystes maintenant qui sont des érudits, des universitaires, des scientifiques, sciences humaines, sciences pures, et qui font évoluer et la pratique et la discipline et qui l'enrichissent. C'est vers ça qu'il faut se tourner.
On est loin de l'hystérie, de l'hystérie comme étant effectivement un concept féminin fondamental. Heureusement.
Ça, on l'entend encore, l'hystérie, et on l'entend dans la bouche de médecins, de psychiatres. Moi, je l'ai entendu dans la bouche de kinésithérapeutes. Je l'ai entendu. Enfin, tu vois, le problème, c'est que ce sont des concepts qui, évidemment, sont totalement obsolètes, même si à l'époque, encore une fois, ils ont été révolutionnaires, parce que l'hystérie, ça a été la première fois qu'on écoutait les femmes et qu'on cherchait à les soigner. Donc, c'était révolutionnaire à l'époque, mais c'est devenu totalement obsolète. Et c'est utilisé de manière, mais complètement biaisée, contre les femmes, pour décrédibiliser les femmes et en général pour les traiter de simulatrices, manipulatrices, etc. D'ailleurs, le terme est complètement galvaudé, il est utilisé n'importe comment. Oui. Donc là aussi, quand on l'utilise, on fait dire à la psychanalyste qu'elle ne dit plus ou ce qu'elle ne dit pas.
Mais écoute, merci Armel, on arrive au terme de notre temps imparti, comme on dit. On continuera la semaine prochaine sur cette histoire, petite histoire entre guillemets, de la psychanalyse et surtout de l'évolution qu'on peut espérer, qu'on peut attendre et qui est en marche en tous les cas. Merci beaucoup Armel de cet éclairage.
Merci à toi Sylvie.
C'est jeudi, j'ai psy.